te gêne?
Non, non, ça va, ça va.
Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été différent pendant la préparation de l'interview et pendant l'interview?
Ah, j'étais mieux pendant la préparation.
C'est une chance qu'on ait enregistré, là, parce qu'on a tout enregistré là, depuis le début.
Même avant notre première conversation,
ouais.
C'est vrai,
ouais.
Ah oui, que nous parlions comme ça, c'était enregistré. Ouais. C'est pour ça que vous ne disiez rien alors. Non, mais au fond, c'était très bien parce que je préfère ce que nous avions dit avant. Alors ça va être deux fois.
Non, mais on s'est arrangé, on va arranger les choses.
L'homme ne reconnaît pas volontiers que sa vie est le produit de nécessités, d'occasions fortuites, de circonstances qui auraient pu être tout à fait différentes. Et il veut absolument que son existence jaillisse du plus profond de lui-même, comme une nécessité organique.
Toute modestie mise à part, le problème c'est pas tellement, je crois que c'est pas immodeste de parler de vocation.
Oh, enfin, quand même. Quand même. Je trouve que la vocation c'est une idée un peu romantique, n'est-ce pas? On a un peu la pudeur d'en parler. Et surtout qu'une vocation paraît souvent exclusive de tout autre. Et moi, j'ai pensé longtemps que je serais musicien, par exemple. Ça m'aurait beaucoup plu.
Ou ironiste.
Et à mes parents, et parents aussi. Ça, c'est pas un métier. C'est pas une vocation.
Vous croyez que c'est pas un métier?
Non, mais le piano, ça en est une. Ça aurait pu en être une. Et puis, les circonstances en disposaient autrement, mais...
Vous ne fumez pas, monsieur?
Je ne fume pas.
C'est quelque chose... Non, mais ça m'intéresserait de savoir pourquoi le mot vous effarouche un peu. Enfin...
Je persiste à penser que l'idée d'avoir une vocation et de revendiquer une vocation est quand même présomptueux, parce que dans la vocation, il y a l'idée d'un appel impérieux, d'une voix que l'on entend et qui vous appelle, comme dans la vocation religieuse, l'idée d'une élection, je suis fait pour certaines choses, je suis fait pour être philosophe, alors que je ne crois pas du tout que je suis fait pour la philosophie, et que la philosophie a besoin de moi, elle peut très bien se passer de moi, et une philosophie française sans moi est non seulement parfaitement concevable, mais entièrement naturelle, donc je ne sers à rien à la philosophie en général, et par conséquent je continue à penser que c'est quand même très prétentieux que de se attribuer une vocation. Ceci dit, pourquoi suis-je devenu professeur de philosophie? Eh bien, les circonstances en ont disposé, en grande partie, et tous les jugements que je pourrais porter maintenant sur le choix qui a été fait sont des jugements rétrospectifs, un embellissement que l'on fait après coup, quand on reconstruit sa vie et qu'on veut absolument que votre vie soit le résultat d'une décision, d'un choix, de la volonté allant plus profond de vous-même, un choix sorti des entrailles de votre être. Alors vous avez décidé d'être philosophe parce que il était inscrit depuis des temps immémoriaux que vous deviez faire de la philosophie. Mais je crois que ce sont des jugements rétrospectifs. C'est une toilette que vous faites après coup à votre existence. Alors que, en réalité, l'existence, mon Dieu, s'accomplit et choisit certaines voies d'une manière tout à fait indépendante de ces décisions-là. Et souvent d'une manière fortuite. Alors le reste, eh bien, il faudrait consulter les circonstances, la famille, la société où on vit, l'époque où on choisit. Tout cela est purement fortuit.
Vous avez hésité entre professeur de philosophie et quelque chose, un autre métier?
Pas vraiment hésité, la musique tient une grande place dans ma vie, mais j'ai jamais songé être réellement ni un pianiste professionnel, ni un compositeur professionnel, bien entendu. Donc, pour ce qui est hésité, non, je n'ai pas vraiment hésité. Et tout cela s'est fait simplement, et je ne regrette rien à cet égard. J'emploie très rarement le conditionnel passé. J'aurais pu, j'aurais dû, ça n'existe pas pour moi. Et en ce sens, je suis porté à penser que quoi que je fasse, enfin, c'est ce que je peux faire de mieux. Je ne peux rien faire de mieux que ce que je fais. Et ce que je fais, je ne le fais pas très bien. Mais en tout cas, c'est ce que je peux faire de mieux. Si mal que je le fasse, c'est ce que je peux faire de mieux. Toute autre chose aurait été plus mal. Est-ce que c'est ça une vocation? Faut avouer que...
Mais vous êtes deux choses toujours depuis longtemps. Vous êtes professeur et vous êtes philosophe.
Alors, philosophe, ah ben, vous avez philosophe, non, mais en France, ça se distingue. Oui, professeur de philosophie. En France, ça se distingue pas, parce que pour un philosophe, c'est pas un métier. La seule façon d'être philosophe, c'est d'enseigner la philosophie, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre manière.
Écrire.
Et écrire, ça n'aurait. Oui, enfin, écrire, s'il fallait que je vive mes livres de philosophie.
Non, c'est autre chose,
enfin. Ça. J'aurais pas de quoi acheter des chaussures à ma fille. non. Ça ne permettrait pas de vivre. Enfin, il n'y a qu'une façon d'être philosophe en France en 1968, c'est d'être professeur de philosophie.
Mais qu'est-ce qui est l'essentiel pour l'instant? Par exemple, si vous étiez du jour au lendemain privé d'enseignement, est-ce que ça vous ferait quelque chose ou non?
Ça me ferait quelque chose, peut-être, et c'est là que je révise un peu mes jugements, parce que j'ai toujours pensé, mais c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très prétentieux. Je suis encore, enfin, moi, quand j'étais jeune, et je ne voulais pas admettre que je faisais de la philosophie pour l'enseigner. Ça me paraissait indigne de moi. Je voulais faire de la philosophie parce que je croyais que j'étais un penseur, un géant de la pensée.
Vous voyez tout de même.
Pardon ?
Vous voyez tout de même, là.
Oui.
Il y avait quelque chose qui ressemblait vaguement à une vocation.
Ah, je ne sais pas, c'était une prétention de jeune homme, une ambition. L'ambition d'un jeune homme qui voulait être un penseur, un philosophe, et qui ne voulait pas consentir à l'idée que son métier, c'était tout simplement et humblement d'enseigner. Et l'enseignement me paraissait indigne de moi. Enfin, j'ai accepté l'enseignement parce qu'il fallait bien passer l'agrégation qui était le gagne-pain, l'assurance du lendemain, et qui était correspondante à une carrière. Enfin, je m'imaginais que j'allais écrire des livres, que je serais très célèbre, et que je serais le grand penseur de ce temps, quoi. C'était pour ça, n'est-ce pas? Mais je dois dire qu'avec les derniers événements, et moi-même très mêlé aux étudiants, et vous sentant très près d'eux, je me suis senti quand même un peu menacé dans mes racines lorsque on a contesté les cours, le rôle de l'enseignant. Et il est possible que je ne puisse plus faire des cours, par exemple. C'est une possibilité, et probablement les étudiants ont raison de demander autre chose que des cours. Mais là, ça me privera. Je leur dirai d'ailleurs, en toute simplicité, ça me privera de ne plus faire de cours. Je ne sais pas si c'est là enseigner, si c'est la vocation d'enseignement. Je ne le crois pas non plus, parce que enseigner, c'est aussi débattre, discuter. Toutes choses pour lesquelles je ne suis pas très bien fait. Je ne suis pas fait pour la discussion, l'analyse des idées, je n'écoute pas assez ce que l'on me dit, j'ai de la peine à la fois à réfléchir et à écouter ce que l'on me dit. Mais par contre, je dois dire que j'aime bien faire des cours, c'est mon vice. Je ne m'en étais pas aperçu avant. C'est sur le point d'un être privé que je m'aperçois que ça me manquerait un peu quand même. Bon, je vivrais sans faire des cours. Puis d'ailleurs, j'aurais plus de temps pour faire mes livres, alors. Mais ça me privera un peu. C'est donc que je n'étais pas dénué, sinon de vocation, tout au moins d'un certain goût de l'enseignement sous la forme du cours. Alors, je peux faire un cours quand on me laisse tout seul. Alors, je n'ose pas avouer ça aux étudiants, parce que ça n'a pas du tout dans leur sens. Alors, ils s'en apercevront peut-être, et ils me laisseront faire un cours. Et quand ils ne seront pas magistrats, ils vont faire un cours.
Mais finalement, cette envie d'enseigner que vous venez de découvrir à cause des événements qui...
L'envie de faire des cours.
L'envie de faire des cours.
Oui,
enfin, l'envie d'enseigner, finalement, non ?
Mais pas enseigner par, dans le sens désiré par la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'échange, la contestation. Non pas que ce soit pas intéressant, au contraire, mais parce que je ne suis pas doué pour ça.
Je n'ai pas l'envie d'enseigner traditionnellement, si vous voulez, l'envie d'être...
De dire ce que j'ai à dire, de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Parce que j'ai envie de dire des choses. Parce que c'est la vocation, j'en sais rien.
Mais c'est peut-être de dire, alors.
Non, j'ai envie de dire des choses. Il me semble que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire. Encore, d'avoir quelque chose à dire. Mais c'est probablement un mirage. En tout cas, l'enseignement est un moyen de le dire. Moi, par exemple, une de mes arrière-pensées, j'ai pas encore osé avouer ça aux étudiants, sur mes amis, je ne veux pas perdre mes amis, c'est que j'ai très envie de faire un cours public radiodiffusé ces années, comme les autres années. J'en fais un depuis très longtemps, un cours radiodiffusé, le lundi, et qui me vaut un auditoire invisible, n'est-ce pas, et pas très nombreux, mais enfin quand même un auditoire ouvert, indéterminé, que je ne connais pas, et qui me vaut de temps en temps des lettres, pas très souvent, mais de temps en temps. Et c'est une ouverture sur un monde un peu inconnu, et puis des auditeurs... Pour moi, qui suis auditeur par excellence, c'est-à-dire un commerçant qui m'écoute à la radio parce que ça, c'est son plaisir, qui ne veut pas faire une thèse avec moi, il ne demande rien, il n'attend rien de moi, mais ça l'intéresse d'écouter un cours sur n'importe quoi, l'absence, l'hypocrisie, comme vous avez pu le faire. Je fais mon cours le lundi, mon cours radio-diffusé, et le lundi, les magasins sont fermés, je suis très écouté par les commerçants du quartier Saint-Martin, enfin, j'ai comme ça des amis invisibles.
Pourquoi vous n'osez pas le dire,
les vieilles dames. Ah, parce que c'est très cours magistral, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'échange. Et ils écoutent pour le plaisir d'écouter, probablement. Alors, c'est agréable pour un professeur. C'est la seule chose, donc, à laquelle je tienne vraiment.
L'essentiel, c'est quand même de parler, de dire, enfin, de dire quelque chose à quelqu'un.
C'est cela.
Est-ce que vous croyez que ça, c'est pas suffisamment essentiel pour qu'on puisse penser rétrospectivement aussi que vous aviez tout de même la vocation de dire ?
Alors ça, je vous le laisse, c'est pas, encore une fois, c'est pas à moi à juger. Ce qui est vrai, c'est que moi, je ressens ce besoin de dire, que j'ai envie de dire quelque chose. Ce qui ne veut pas du tout dire que j'ai quelque chose à dire. Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire. Le peu que je dis, j'ai envie de le dire. Est-ce que c'est quelque chose à dire, qui vaut la peine d'être dit ? Encore une fois, ça, les gens en jugeront, ou ils en ont déjà jugé. En tout cas, moi, j'ai envie de le dire. Alors, l'envie de dire, l'envie d'écrire, ça, c'est une envie que beaucoup de gens ressentent, et qui, elle, est un besoin profond que j'ai, qui remplit mon existence, dans lequel je suis très malheureux. Est-ce une vocation, ça, vraiment ? Est-ce un appel impérieux ? Non, je n'ai jamais senti d'appel, personne ne m'a appelé, les circonstances en ont disposé. La distinction n'est pas entre ceux qui ont une vocation et ceux qui n'en ont pas, elle est entre ceux qui ont quelque chose à dire et ceux qui n'ont rien à dire. Alors quelle différence y a-t-il entre les uns et les autres ? Et bien, cette différence, elle est parfaitement mystérieuse. Elle est aussi mystérieuse qu'objective et évidente, éclatante pour tout le monde, aussi bien quand on entend de la musique au concert, on comprend tout de suite, on reconnaît tout de suite un prétentieux, vide, n'a absolument rien à dire. Qui parle le langage à la mode, qui croit dire des choses, n'est-ce pas ? Qui a une fausse avant-garde, par exemple, une fausse profondeur, ça se reconnaît tout de suite. Et puis, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Alors c'est un miracle, c'est merveilleux. Tout le monde, on est devant une grande évidence.
Mais alors avoir quelque chose à dire, ça pourrait s'appeler comment, ça ?
Ah, j'en sais rien, ça. Alors vraiment, c'est le mystère de la création, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme. Et c'est indépendant de tout le reste, ça vient certainement.
Mais c'est surtout pas la vocation.
C'est la consistance de la personnalité, n'est-ce pas ? C'est d'abord la spontanéité. La spontanéité, la sincérité, qui est vraiment un des signes extérieurs, ça ne suffit pas. En soi-même, la sincérité n'est pas forcément créatrice, mais on ne peut pas concevoir un homme qui a une vocation, un jeune homme notamment, et qui a quelque chose à dire, et qui ne soit pas sincère.
Mais c'est. Non, vous allez en voir. Vous avez 2 minutes encore ?
J'ai horreur de m'entendre.
Ah, vous avez horreur de m'entendre ?
Oh, ça me met dans un état de.
Mais juste pour voir la différence. Vous oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas ? Vous entendre ou vous voir ?
Ni l'un ni l'autre. Puis ma voix n'est pas non plus une voix radiophonique. Et puis une voix prétentieuse. J'ai une voix prétentieuse. J'ai une voix de l'écrivain de la NRF.
Vous aimeriez y avoir une voix comme.
Bah, comme la vôtre, par exemple, une voix plus posée, plus timbrée, je ne sais pas.
Mais vous avez une voix qui va très bien avec vos phrases, je veux dire.
Votre tête, n'est-ce pas, une voix voilée. Et... Non, parce que je prends conscience de ce que mon débit a de saccadé, de haletant, un peu bafouilleur, quoi.
Pas du tout.